Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit du monde d'où vous nous écoutez, dans une émission consacrée à la géographie, nous aimons rappeler que Canal Académie est écoutée dans toutes les parties du monde. Dans le discours sur l'environnement, on entend volontiers et souvent les scientifiques, les chercheurs, les climatologues, les politiques aussi. On entend moins une autre catégorie, les géographes. Et pourtant, dans leurs enseignements comme dans leurs publications, ils savent tenir un discours raisonnable. Aussi, les géographes ont-ils décidé de se faire entendre lors d'un colloque organisé par la Société de géographie, dont le siège est à Paris. Le président de cette Société de géographie étant l'académicien Jean-Robert Pitt de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est lui qui maintenant va nous expliquer pourquoi les géographes s'expriment publiquement sur l'état de la planète et nous dire le contenu de ce colloque. Bonjour Jean-Robert Pitt.
Bonjour et merci de votre invitation.
C'est nous qui sommes très intéressés et très curieux de savoir comment et pourquoi vous organisez ce colloque qui, si j'ai bien lu le programme, est résolument anti-catastrophiste.
Oui, on a même choisi un titre parce que finalement, notre société passe beaucoup par les médias, que les journalistes se sont beaucoup exprimés, c'est une catégorie dont il faut parler, se sont beaucoup exprimés sur ces questions d'environnement sans en avoir nécessairement les compétences. Je n'ai rien contre la profession de journaliste qui est extrêmement noble et nécessaire. Mais il ne faut pas qu'ils se prennent pour des scientifiques, les journalistes. Et malheureusement, plusieurs d'entre eux se sont ces dernières années livrés à des espèces de concurrence pour savoir qui irait le plus loin dans le catastrophisme. Et c'est pourquoi nous avons décidé à la Société de géographie d'appeler notre colloque du 16 septembre, notre colloque de rentrée, ouvert à tout public. Ça se passe 184 boulevard Saint-Germain, dans le 6e arrondissement de Paris. Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Et le sous-titre, c'est 15 grands scientifiques géographes nous rassurent sur notre avenir. Alors l'idée n'est pas de dire que tout va bien à la surface de la Terre. Il y a évidemment bien des problèmes, mais ce que nous voulons dire, c'est que ce discours ambiant concernant le réchauffement du climat, la montée des eaux, la surpopulation, la sous-alimentation, les pollutions de toutes sortes,
toutes les peurs, également
géopolitiques, géostratégiques, militaires, nucléaires, énergétiques, enfin, etc., toutes ces peurs ont évidemment un fondement.
On ne peut pas le nier.
Bien sûr que le climat se réchauffe, etc. Mais ce que nous disons, nous, géographes, c'est que, et nous sommes aussi des historiens, c'est que ces problèmes ne sont pas nouveaux. L'humanité en a connu de bien pire au cours de son histoire et de sa préhistoire, et elle a toujours su faire face. Alors, parfois, il y a eu des grandes catastrophes, mais n'oublions pas quand même que les plus grosses catastrophes, ce sont les hommes qui les ont provoquées, c'est-à-dire 9 millions de morts la Première Guerre mondiale, 60 millions de morts la Seconde Guerre mondiale.
C'est beaucoup plus que
le réchauffement du climat, et ce n'est pas la nature. Donc, ce que nous disons, c'est que des drames, il y en a toujours eu, dont l'homme, parfois, n'était pas responsable du tout, parfois dont l'homme était responsable ou co-responsable avec un événement naturel. Quand une société s'installe sur un volcan en activité, il faut qu'elle s'attende à ce qu'un jour ou l'autre, une catastrophe lui arrive. J'ai beaucoup de compassion pour les pauvres Romains qui sont morts à Pompéi. Cela dit, là où est située Pompéi, il y a de fortes chances qu'un jour ou l'autre, on reçoive une nuée ardente parce que le Vésuve est un volcan extrêmement dangereux. Donc, il y a beaucoup de choses aussi beaucoup de drames qui sont arrivés dans l'histoire de l'humanité liés à des imprudences, liés à l'ignorance. Et nous pensons que la connaissance géographique permet de faire face à un certain nombre de dangers, permet de mettre en œuvre des solutions pour empêcher les plus grands drames de survenir.
Vous insistez aussi sur le fait que les progrès techniques devraient finalement éviter ce discours catastrophiste.
Oui, bien sûr, il y a des choses inéluctables. Il est évident que notre vie est limitée et que même si aujourd'hui, il y a des gens qui vivent 120 et quelques années de plus, même pour vraiment les records, gros, l'homme d'aujourd'hui est programmé pour vivre entre 80 et 100 ans. Mais évidemment, il peut arriver des maladies. Mais on voit bien quand même à quel point la vie humaine a été prolongée au cours de ces dernières décennies, de ces derniers siècles aussi. Donc, au cours de la préhistoire, vivre au-delà de 30 ans était une prouesse, un prodige. Et la moyenne, l'espérance de vie moyenne, compte tenu de l'extraordinaire mortalité infantile, était de 12 ou 13 ans. Donc aujourd'hui, on a énormément fait de progrès grâce à la médecine, grâce à la science, grâce à la biologie. Et c'est fort bien ainsi. Donc dans toutes sortes de domaines, il y a des techniques merveilleuses aujourd'hui qui parfois d'ailleurs sont à double sens. Prenons un exemple, si vous le voulez. Prenons le nucléaire. Le nucléaire, c'est une technique absolument extraordinaire dans le domaine de la production énergétique, mais aussi dans le domaine de quantité d'industrie, de quantité de techniques liées à la santé, par exemple. Et puis, ça peut être une arme de destruction massive, tout le monde le sait. Donc voilà le type même de technique qui peut donner le meilleur ou le pire. Et souvent, d'ailleurs, les choses sont comme ça. Je trouve qu'on n'insiste pas assez là-dessus. De manière trop simpliste, on a tendance à penser... je vais prendre un autre exemple qui n'a rien à voir alors cette fois-ci, mais qui est une technique quand même, c'est l'argent. Beaucoup de Français, en particulier de jeunes, sont persuadés que l'argent est sale, que l'argent est mauvais, que l'argent pollue, corrompt l'humanité. L'argent, il n'est ni bon ni mauvais. Ça dépend ce qu'on en fait. Comme disait Vespasien, il n'a pas d'odeur. Mais ça dépend ce qu'on en fait. On peut en faire le meilleur des usages possibles et on peut en faire le pire des usages. Donc c'est pareil dans toutes sortes de domaines de la technique et de notre planète. Rien n'est écrit définitivement, rien n'est programmé et surtout, l'homme lui-même est programmé pour inventer, est programmé pour imaginer des solutions. Ce n'est pas un animal comme les autres. Il n'est pas dans une espèce d'instinct pour lequel il n'aurait pas de liberté. L'homme est doué de liberté, donc d'imagination, donc de capacité d'invention. Et c'est ce qui peut permettre de rendre optimiste, à condition que nous fassions les efforts pour mettre en œuvre toute cette immense capacité du cerveau humain.
Bien sûr, il ne s'agit pas d'être un optimiste naïf. Donc, dans ce colloque que la Société de géographie organise donc ce jeudi 16 septembre 2010, il y aura trois grands moments. D'abord, un premier moment qui est intitulé « Pas de nature sans humanité ». Autrement dit, on ne fait pas de la nature un dieu qui aurait ses folies de temps en temps, mais on vous dit que la nature et l'homme ont partie liée.
Nous avons tendance à penser, nous géographes, et depuis fort longtemps, que parler de nature, et surtout avec un grand N, d'une manière telle que l'homme en serait exclu, est une catastrophe véritable, est une absurdité scientifique et peut aboutir à des catastrophes. L'homme fait partie du règne animal, comme je le disais tout à l'heure, il a une petite différence avec tous les autres animaux, c'est qu'il est doué de un plus grand cerveau et surtout une capacité de liberté extraordinaire et d'invention pour faire face justement à tout ce qui peut lui arriver, à tous les événements extérieurs, mais il fait partie de la nature en même temps. Et nous avons tendance à penser que l'homme a des droits alors que le reste de la nature n'a pas de droits. Nous savons tous très bien, et les géographes l'affirment très fortement, que quand on gère mal son environnement, il peut arriver des catastrophes. Si l'on déforeste imprudemment, si l'on s'installe dans des zones inondables, etc., il peut arriver de vraies catastrophes. Mais la nature, ou du moins l'environnement plutôt que la nature, c'est l'environnement des hommes, l'environnement bien maîtrisé, j'allais dire comme pour Jean-Sébastien Bach, le clavecin bien tempéré, l'environnement bien maîtrisé est au service des hommes. Et là, il n'y a pas de droit. Il est normal que l'homme, qui est un omnivore, se nourrisse de plantes, mais aussi se nourrisse d'animaux. Donc dire, ah ben non, mais se nourrir d'animaux, c'est pas bien, ça fait souffrir les animaux. Oui, alors l'espèce humaine peut disparaître de la surface de la Terre aussi. Donc l'homme a réellement des droits. Les droits de l'homme, c'est quelque chose, mais beaucoup plus large que ce qu'on entend habituellement par droits de l'homme. Ce n'est pas uniquement la question de la liberté des femmes par rapport aux hommes, par exemple, ou des libertés politiques, des libertés syndicales. Ça fait partie des droits de l'homme, bien sûr. Mais ça va beaucoup plus loin. L'homme a des droits éminents, j'allais presque dire régaliens, à la surface de la Terre. Mais il sait aussi, d'ailleurs ça a été très bien dit dans un beau texte qui s'appelle la Bible, qu'il y a des choses qui se retournent contre lui quand il fait n'importe quoi. Donc c'est symbolisé dans la Bible par ces affaires du paradis terrestre, du déluge, enfin tout ce que l'on connaît dans nos grands mythes fondateurs et dans nos grands textes fondateurs des civilisations méditerranéennes, qu'on trouve aussi d'ailleurs sous d'autres formes dans d'autres civilisations. Donc l'homme a tous les droits, sauf que quand il est imprudent, ça se retourne contre lui. Donc c'est là, la limitation, elle est là. À partir du moment où l'homme exploite l'eau de manière, je prends un exemple qui intéresse beaucoup les géographes, l'eau douce de manière inconsidérée, sans se préoccuper du renouvellement, de la durabilité de celle-ci, ça aboutit à des catastrophes. Le manque d'eau est un des grands drames de l'humanité. Il y a trop d'habitants à la surface de cette terre qui manquent d'eau, et pourtant l'eau, globalement, ne manque pas à la surface de la terre. Il y a tout ce que l'on veut, tout ce que l'on veut, mais faut-il encore utiliser tout cela raisonnablement? Et c'est ça la merveille de l'intelligence humaine dans son environnement, c'est d'être capable, mais ça demande des efforts, ça demande bonne gouvernance aussi, ça demande de bonnes institutions, de gérer à son service cet extraordinaire environnement terrestre qui peut porter, nous le disons aussi, nous le dirons pendant ce colloque aussi, encore beaucoup plus de monde qu'il y en a aujourd'hui.
Justement, c'est une partie importante de ce colloque, la deuxième partie. Et alors, elle affirme haut et fort, non, nous ne sommes pas trop nombreux. Or, pourtant, c'est vraiment un argument qu'on entend très souvent. 9 milliards, on dit souvent 9 milliards pour 2050.
2050, oui.
Ce sera trop, on n'y arrivera pas. Alors que répondent les géographes?
Oh, bah, écoutez, c'est simple. Moi, j'étais étudiant. J'ai un âge très avancé maintenant. J'étais étudiant entre 1966 et 1971. Et j'ai le souvenir de ma première année d'études à la Sorbonne en géographie, où l'un de mes maîtres, qui était le professeur Jacqueline Beaujeu-Garnier, faisait un cours de géographie de la population. Et elle avait sorti un livre l'année de ce cours que j'avais acheté à l'époque et qui m'a beaucoup marqué. Le titre était « 3 milliards d'hommes ». Et tout ce livre était un peu angoissé, je dirais, porteur d'un certain nombre de discours de cette époque qu'on retrouve aujourd'hui, mais qui étaient les discours du Club de Rome, qui étaient les discours de la FAO, un certain Josué de Castro, qui était le patron de la FAO à l'époque, un Brésilien qui a écrit beaucoup sur la faim dans le monde. Et en gros, le message que j'avais reçu à cette époque, mais ce n'est plus le message des géographes aujourd'hui, c'était de dire 3 milliards, c'est vraiment le maximum. Donc, il y avait dans ce cours et dans ce livre de Jacqueline Beaujeu-Garnier un discours visant à encourager la limitation très forte des naissances en Chine, en Inde, par exemple, et même en Afrique ou au Brésil. Il y avait un discours qu'on pourrait appeler malthusien derrière tout cela. Aujourd'hui, je pense qu'on a, nous, géographes, avec l'aide d'un certain nombre de démographes, et je pense à notre confrère de l'Académie des sciences morales et politiques, Jacques Dupaquier,
disparu. Ou
Gérard-François Dumont,
ici,
voilà,
ici,
qui d'ailleurs sera...
Qui sera au colloque, qui a eu ça, en effet.
Aussi, autant démographe que géographe, et qui sera au colloque. Et nous disons, non, nous ne sommes pas trop nombreux. Nous sommes actuellement bientôt 7 milliards. Nous étions 3 milliards il y a donc maintenant
40 ans.
En gros, 40 ans. À l'époque, la majorité, beaucoup de gens pensaient que c'était trop, nous étions trop nombreux. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards, nous vivons donc plus nombreux, mieux nourris, plus âgés, même en Afrique, même dans l'Afrique traversée par des maladies effroyables comme le sida, des guerres civiles, des régimes dictatoriaux iniques, même en Afrique, on vit plus âgés qu'il y a
40 ans.
Oui. Et mieux nourris. Alors certes, il y a toujours, en
gros, des gens qui meurent de faim tout de même.
Il y a des gens qui meurent de faim, et on peut dire qu'il y a un bon milliard d'habitants de cette planète. Sylvie Brunel connaît mieux ces questions-là que moi, qui est la co-organisatrice de ce colloque, un bon milliard d'habitants de cette planète qui vit en dessous de ce qu'il est convenu d'appeler le seuil de pauvreté. Et beaucoup qui meurent prématurément de maladies. Bon, on le voit bien avec les drames du Pakistan en ce moment, il va y avoir des épidémies et ces inondations mal maîtrisées, mais qui normalement arrivent tous les ans. Il est normal qu'il y ait des inondations au Pakistan, la mousson, ça crée les inondations. L'art des civilisations de l'Orient, c'est de maîtriser cette inondation grâce à la riziculture. Je ferme cette parenthèse. Donc, il y a un milliard d'habitants de la planète qui, aujourd'hui encore, vit en dessous du seuil de pauvreté. C'était le chiffre d'il y a 40 ans. Ça représentait un tiers de l'humanité il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est 15%.
Oui, c'est ça.
Et oui, ça change tout. Ça change tout.
C'est encore trop, mais
bien sûr que c'est trop. C'est scandaleux, lamentable. Mais ça veut dire que en 40 ans, grâce à la révolution verte, grâce à la maîtrise de l'énergie, grâce à la maîtrise des transports, grâce à des quantités de progrès techniques immenses effectués en 40 années, c'est gigantesque. Il y a une accélération depuis la Seconde Guerre mondiale des progrès techniques qui est fantastique dans tous les domaines. Ce qui n'a pas progressé, c'est nécessairement la sagesse humaine. Et nous, nous disons, en matière de démographie, que la bonne gouvernance permet de régler bien des problèmes. Quand on voit des pays comme les Pays-Bas, 500 habitants au kilomètre carré, et ils vivent en dessous du niveau de la mer, Singapour, une île équatoriale, tout le monde dit pic-pente du climat équatorial, une densité de population de 1 000 à 1 500 habitants au kilomètre carré, qui est un des États les plus prospères du monde, par tête d'habitants. Ce n'est pas une très grande puissance, parce que c'est un tout petit pays, c'est une île. Mais quand on voit le Japon, c'est la moitié de la France, 80% de montagne, 120 millions d'habitants qui vivent entassés dans des plaines à 700 ou 800 habitants au kilomètre carré et qui est la deuxième, enfin maintenant la troisième puissance du monde puisque la Chine vient de dépasser le Japon. Donc il y a des résultats extraordinaires, visibles sur notre planète. Et nous, géographes, eh bien, c'est notre métier de les analyser, de comprendre pourquoi dans telle région on vit mieux que dans d'autres, au moins sur le plan matériel et sur le plan de la gestion de l'environnement. Ça ne veut pas dire que les gens soient forcément plus heureux, mais enfin, en tout cas, il y a de grandes réussites sur le plan de la technique de gestion de l'environnement et des subsistances, et dans d'autres, on vit très très mal. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est ce qu'on dira évidemment dans cette partie de notre colloque, oui, nous pouvons nourrir tout le monde à la surface de la Terre, 7 milliards, et même sans doute 10, déjà il y a 50 ans, quelqu'un qui disait, tenait un discours contraire à celui de Jacqueline Bauger-Garnier, qui était Klatzmann. Klatzmann était un agronome et démographe qui enseignait, qui est décédé maintenant, qui enseignait à l'Institut National Agronomique. Il avait fait un petit livre aux presses universitaires de France dans les années 60 et qui s'appelait « Nourrir 10 milliards d'hommes ». Déjà, il y a 40 ans, il disait « On peut nourrir 10 milliards d'hommes ». Et voilà les conditions. Alors vous voyez, aujourd'hui, s'insurger contre les OGM, par exemple, c'est d'une absurdité totale. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire n'importe quoi et tout accepter en matière d'OGM. Mais faisons des études, analysons, voyons les chances et les risques que ça présente et essayons de diminuer les risques de façon à profiter des possibilités de toute la technologie. Si l'Inde est aujourd'hui nourrie à sa faim, c'est grâce à quoi ? À la révolution verte d'un certain Swaminathan qui a, dans des laboratoires qui étaient aux Philippines essentiellement, mis au point des variétés de riz permettant d'obtenir des rendements très, très, très supérieurs. L'agronomie est indispensable à la survie de l'humanité, pas à la survie, à la prospérité de l'humanité sur la Terre. Donc ne pensons pas que les engrais, que les pesticides, que les OGM soient forcément catastrophiques. Ça dépend, là encore, la proportion dans laquelle on les utilise, les usages qu'on en fait. Et il faut, la science doit parler en disant, attention, tel produit, telle technique est dangereuse. Dans ce cas-là, on ne l'utilise pas. Mais ne disons pas a priori, non, il faut revenir au néolithique. Je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas raisonnable de penser que les Amish, cette secte puritaine, communauté qui vit dans le nord-est des États-Unis, c'est ça l'avenir. Non, on ne va pas revenir aux lampes à huile et à la locomotion à cheval.
Néanmoins, nourrir l'humanité est une partie en effet importante, mais cette humanité, 10 milliards par exemple, elle va aussi consommer beaucoup d'énergie et elle va aussi beaucoup polluer, forcément, c'est proportionnel. Alors là, c'est aussi des problèmes à gérer. Et vous dites, vous, que tout est gérable à condition qu'on prenne le problème en main, en fait.
Écoutez, là, nous sommes dans un studio de Canal Academy. J'ai la chance, je le dis pour nos auditeurs qui sont un peu loin de Paris, d'avoir sous les yeux un fleuve majestueux qui s'appelle la Seine et un pont qui s'appelle le Pont Neuf. Cette Seine a été le fleuve le plus pollué de France pendant des siècles et des siècles. Pendant 1000 ans, pratiquement, ça a été le fleuve le plus pollué de France. Donc, vous connaissez cette expression qui fait un peu peur, on dit chien crevé au fil de l'eau. Mais c'était ça, la Seine, jusqu'à une date relativement récente. Aujourd'hui, je la vois, cette Seine, légèrement verdâtre, presque transparente, un jour de beau temps, comme aujourd'hui, on peut se baigner dedans. Un ancien président de la République avait promis qu'il le ferait, il ne l'a pas fait
encore. On n'a pas encore essayé, mais ça va venir.
Pourtant, il habite au bord de la Seine, il va le faire un jour. Mais la Seine est devenue une rivière propre. Quand on songe que sur le Pont-Neuf...
Oui, mais il y a beaucoup de rivières qui c'est l'inverse. Elles étaient propres et maintenant elles sont polluées.
Même le Gange est moins pollué maintenant qu'il ne l'a été. Il est encore très, très pollué. Mais il y a aujourd'hui un effort gigantesque qui a été fait dans le monde entier pour la dépollution des rivières. Parce que ce qui pollue le plus, c'est bien sûr l'industrie, mais aussi il y a toute une pollution biologique. Quand il n'y a pas de système d'épuration des eaux, quand les égouts vont directement dans l'eau, là, ce sont des bouillons de culture, les rivières. Et songez que la Seine, il y avait sur le Pont Neuf une fontaine qu'on appelait la Samaritaine. Enfin, une fontaine, pas une fontaine, une pompe. Et on allait puiser l'eau dans la Seine que les Parisiens de la rive droite venaient boire. Vous imaginez les maladies qu'ils pouvaient attraper avec cette eau ultra polluée qui charriait absolument n'importe quoi. Donc aujourd'hui, partout, en tout cas dans les pays développés, il y a les stations d'épuration. Et l'un des vrais grands progrès en train d'être accompli dans un certain nombre de pays en développement, c'est justement de créer les stations d'épuration. Je pense à la Chine, qui en crée énormément. La Chine continue à polluer beaucoup, mais elle crée aussi beaucoup de moyens de lutter.
Donc, tout se gère, en fait.
Tout peut se gérer.
Tout peut se gérer avec une volonté.
Mais pour ça, il faut tout dépend de la politique. C'est la bonne gouvernance qui compte. Vous avez parlé, pardon, j'ai pas répondu à votre double question. Vous avez parlé de pollution des eaux. Vous avez parlé d'énergie aussi.
De consommation.
Bien sûr qu'on consomme énormément d'énergie. Et heureusement, c'est pour notre service. D'ailleurs, si nos auditeurs nous écoutent à l'autre bout de la Terre, c'est bien parce qu'il y a des sources d'énergie importantes qui ont été mises en œuvre pour permettre d'incroyables progrès dans le domaine des transports, des transports des gens, des transports de marchandises, des transports d'informations, etc. Tout ça, bon, on a besoin d'énergie, d'électricité, tout simplement. Or, aujourd'hui, vous avez tout un discours qui vise à diaboliser le nucléaire. Non, le nucléaire, encore une fois, je le répète, peut être très mauvais utilisé à certaines fins, extraordinairement positif utilisé à d'autres. Et Christian Pierret, qui est le fondateur du Festival de géographie de Saint-Dié-des-Vosges, ancien ministre de l'Industrie, viendra au colloque nous parler de cette question donc, de l'énergie. Il y a suffisamment d'énergie à la surface de la Terre. Il y a des quantités de moyens qui ne sont pas encore mis en œuvre. On peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ça ne veut pas dire qu'il faille dépenser n'importe comment. Il faut aussi économiser l'énergie, l'utiliser à bon escient. Tout cela repose sur la gouvernance.
Un dernier mot, Jean-Robert Pitt. Le choc des civilisations, ce n'est donc pas une fatalité.
Ça, c'est, bon, j'essaierai de conclure cette journée en parlant d'un sujet qui m'est cher, parce que j'ai toujours été très choqué par ce discours, qui c'est Huntington, grand essayiste américain, qui le premier a tenu ce discours sur le choc des civilisations, qui est nécessaire, et pas nécessaire, mais qui est, qu'on ne peut pas éviter, entre l'Occident, inévitable, entre l'Occident et le monde islamique, par exemple, entre l'Est.
Si, on peut l'éviter, vous vous dites,
évidemment,
on peut l'éviter.
Évidemment, il y a toujours eu des états de grâce de la civilisation qui ont permis aux gens de vivre ensemble dans leur diversité. Et nous, géographes, nous disons la diversité, y compris les façons de penser, c'est une richesse extraordinaire de la planète, ce qui fait que la planète est si belle, si passionnante, que les gens ne pensent pas tous la même chose, ne vivent pas tous de la même façon, n'aient pas tous les mêmes idéaux, mais qu'ils acceptent que d'autres ne pensent pas comme eux et qu'ils acceptent de vivre ensemble. C'est ça qui peut permettre à l'humanité de ne pas s'ennuyer sur la Terre, de progresser dans toutes sortes de domaines et de vivre en harmonie. Mais tout cela demande le respect d'autrui, demande une gouvernance éclairée, et je crois beaucoup à cela. Les pays pauvres, malheureusement, sont des pays qui, le plus souvent, sont très mal gouvernés par des régimes corrompus, par des régimes non démocratiques. Donc, tout est lié. Beaucoup de religions également se sont dévoyées, si je puis dire. Et bon, on parle beaucoup de l'islam, mais les autres religions, au cours de leur histoire, ont eu aussi des moments qui ne sont pas glorieux. Nous sommes devant le Louvre. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé le jour de la Saint-Barthélemy. On était entre chrétiens et on s'est allègrement massacré. Et ça a duré suffisamment de temps en France. Donc, l'homme est capable du meilleur comme du pire.
Donc, parions sur le meilleur. Voilà.
Parions sur le meilleur. Disons que le meilleur est possible. Ce n'est pas sûr qu'il va arriver. Une catastrophe est toujours possible. Mais faisons tout pour que les forces du bien triomphent sur les forces du mal.
Voilà la conclusion donc, des géographes qui seront présents au colloque qu'organise la Société de géographie, présidée par Jean-Robert Pitt. Ce colloque, je vous rappelle qu'il a lieu le 16 novembre à partir de 9h et jusqu'à 16h30. Il se tient au 184 boulevard Saint-Germain à Paris. Vous pouvez vous informer au site internet www.socgeo pour Société de géographie, socgeo.org. Vous pouvez même adresser un courriel pour information si vous le souhaitez à socgeo@socgeo.org. Ce colloque est organisé aussi, on le dit, en partenariat avec l'école de commerce qui est abritée à la Société de géographie qui est l'IPAG. Et enfin, n'oublions pas que les intervenants, 15 grands scientifiques géographes qui nous rassurent sur notre avenir, ont fait publier avec la Société de géographie aux éditions Jean-Claude Lattès un ouvrage qui s'intitule « Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête » dirigé par Sylvie Brunel et Jean-Robert Pitt. Vous pouvez vous le procurer donc aux éditions Lattès et aussi dans une librairie à Paris spécialisée dans la géographie qui s'appelle la librairie Géo. Graphie. On ne peut pas trouver mieux comme nom. Merci Jean-Robert
Pitt. Merci à vous.
À une autre fois pour une chronique géographie, puisque c'est une chronique régulière que vous venez animer sur Canal Académie. Merci infiniment et à bientôt.
Merci à vous.